écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 1er mars 1871, Paris est occupé par les Allemands. Le 14 septembre 1870, le général Louis Trochu, gouverneur militaire de Paris et président du gouvernement de la Défense nationale, passe en revue l'armée chargée de protéger la capitale. De la Bastille à l'Arc de Triomphe, sur les grands boulevards et les Champs-Élysées, sont massés 115 000 gardes mobiles, les fameux moblots. Jeunes gens appelés des départements de la France profonde et 200 000 soldats citoyens de Paris, peu expérimentés, qui constituent la garde nationale. 50 000 soldats d'infanterie de ligne, 18 000 hommes échappés de Sedan, 15 000 matelots et 700 pièces d'artillerie complètent ce dispositif militaire. Le soir même, Trochu adresse une vibrante proclamation. Jamais aucun général d'armée n'a eu sous les yeux le grand spectacle que vous venez de me donner. 300 bataillons de citoyens organisés, armés, encadrés par la population tout entière, acclamant dans un concert immense la défense de Paris et la liberté. Ayez donc confiance entière et sachez que l'enceinte de Paris, défendue par l'effort persévérant de l'esprit public et par 300 000 fusils, est inabordable. Le 15 septembre 1870, les Prussiens sont devant les forts de la ceinture parisienne. Trois jours plus tard, la capitale est totalement encerclée. Les villages de la banlieue sont évacués. Les 300 000 fusils veillent sur les remparts, tandis que les soldats de métier entre en contact avec l'ennemi. À partir du 6 janvier 1871, les Prussiens bombardent Paris. Les obus tombent au rythme de 18 à l'heure. Les difficultés d'approvisionnement sont criantes. Un boucher du boulevard de Rochechouart vend des chats à 20 francs. Des corbeaux à 100 sous et des moineaux à 1 franc et 25 centimes. 25 523 chats sont mangés durant le temps du siège. Les deux trotteurs offerts par le tsar à Napoléon III sont vendus 800 francs. Ils sont transformés en saucissons chevaleresques. Tous les trois jours, les Parisiens peuvent acheter 33 grammes de viande chevaline. Pour les obtenir, ils doivent faire la queue dans d'atroces conditions climatiques, même attente devant les boulangeries, où un pain théoriquement composé de blé, de riz et d'avoine est vendu. Le 14 novembre 1870, un pigeon voyageur venant de Tours apporte une nouvelle pleine d'espoir. L'armée de la Loire a repris Orléans. Trochu échafaude aussitôt un plan de sortie pour permettre à l'armée de Paris et à celle de la Loire de se rejoindre à Fontainebleau. Les Parisiens se lancent à l'assaut de Champigny qu'ils enlèvent. Le 3 décembre, les Français sont contraints de repasser la Marne. Orléans est reprise et le rendez-vous de Fontainebleau est manqué. Le 28 janvier 1871, à 20h, l'armistice est signé. Les négociations de paix débutent. Les Prussiens proposent à Adolphe Thiers le marché suivant. La France donne Belfort à l'Allemagne, où 30 000 soldats allemands occupe une partie de Paris, et ce, jusqu'à la ratification des préliminaires de paix par l'Assemblée nationale réunie à Bordeaux. Selon la Convention spéciale du 26 février 1871, Paris se sacrifie pour Belfort. L'armée allemande entre dans la capitale le 1er mars. Les Prussiens franchissent l'avenue de l'Impératrice, l'actuelle avenue Foch, et l'avenue de la Grande Armée, puis descendent les Champs-Élysées. Des palissades séparent le Paris libre du Paris occupé. L'occupation de la capitale prend fin le 3 mars après la ratification des préliminaires de paix. Nous marquons une pause musicale avant de retrouver la chronique littéraire Un jour trois livres qui a été préparé par Emmanuel et que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est le groupe Triane, groupe breton fondé en 1969, qui nous accompagne en chanson durant cette émission Historama. Nous écoutons l'un de ses premiers succès, c'était à la fin de l'année 1972, dans son album initial intitulé « Les trois gens de Nantes », Triane chantait « Tri Martelot ».
Trimartolodia, oh, oh, l'on l'a, l'on dit qu'il est Trimartolodia, oh, et bon est d'avé agi.
Trimartolodia, oh, oh, l'on l'a, l'on dit qu'il est Trimartolodia, oh, et bon est d'avé agi.
Et vont et d'avé agi, et vont et d'avé agi.
Et vont et d'amé warme gué, et vont et d'amé warme.
Et vite finant l'histoire, oh l'on l'a l'indiqué tra, et vite finant l'histoire, et maman vont des grands temps.
Il y a wa et no down, oh l'on l'a l'indiqué tra, il y a wa et no down, par son petit cœur d'un taxi.
Par Zantiker dem Baxi,
par Zantiker dem Baxi, par Zantiker dem Baxi.
Par la journée un petit, oh l'on l'a, l'on dit qu'est par la journée un petit, on est d'oldre et d'emmène. Péder Dré, Béder, oh l'on l'a, l'on dit qu'est traheur, Péder Dré, Béder, et vite mon dardour marat,
et du nom va rentrer, oh l'on l'a, l'on dit qu'est traheur, et du nom va rentrer, tout chaud mais des arrêts,
et je suis hors chanson, oh l'on l'a, l'on dit qu'est traheur, et je suis hors chanson, et bah la règle d'Alron,
Trimartolo.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres qui a été préparé par Emmanuel et que j'ai le plaisir de vous présenter trois ouvrages assez différents l'un de l'autre aujourd'hui, en commençant par La guérisseuse de Catane de Simona Lo Iacono aux éditions Métayer. Nous sommes en Sicile au XIVe siècle. Dès l'enfance, Virdu Murat, jeune juive, apprend de son père l'art de guérir, les connaissances anatomiques, les propriétés des herbes et surtout la compréhension que le corps ne guérit pas si l'âme souffre. Adulte, elle choisit de soigner les laissés pour compte, les marginaux, les handicapés, les enfants, les jeunes femmes qui ont subi des violences. Elle utilise son savoir médical, mais aussi la parole, la danse, le sens de la beauté. Cependant, sans la présence d'un homme, Virdu Murat n'a pas le droit de soigner et est arrêtée, puis jugée. Mais le 7 novembre 1376, elle va obtenir une licence royale pour pratiquer la médecine en Sicile et devenir la première femme médecin sur l'île. Puis, pendant bien des siècles, elle est oubliée. Ceci dit, le prix international récompensant les médecins à vocation humanitaire porte aujourd'hui son nom. C'est un bien, une belle reconnaissance de l'histoire. La guérisseuse de Catane de Simona Lo Iacono s'est publiée aux éditions Métayer. Juste après Dieu, il y a Papa, d'Éric Emmanuel Schmitt, que nous avons toujours plaisir à évoquer dans cette émission, s'est publié aux éditions Albin Michel. Voici l'histoire de Wolfgang Amadeus Mozart et de son père Léopold. De 7 enfants, il n'en resta plus que 2, Maria Anna et Wolfgang, qui survivent aux maladies infantiles et deviennent tous deux des musiciens de grand talent. Léopold Mozart était en son temps suffisamment connu, notamment pour sa méthode du violon. Léopold a consacré ses qualités de pédagogue à l'éducation musicale de ses 2 enfants. Les dons exceptionnels de son fils le décidèrent à organiser des concerts à travers l'Europe pour exhiber ses enfants. Ainsi, le petit Wolfgang a adoré son père, son guide, son modèle, son Dieu vivant. Puis est venu le temps où l'enfant prodige s'est élevé plus haut que le maître et l'admiration s'est muée en dédain. L'un a rompu, s'est émancipé, grisé de passions nouvelles, l'autre a souffert, s'est résigné, a cédé sa place, contraint d'inventer des liens différents. Un drame silencieux. Juste après Dieu, il y a Papa, c'est le nouvel ouvrage d'Éric Emmanuel Schmitt, publié aux éditions Albin Michel. Et nous terminons cette chronique par le livre de Sophie Talmen, publié également aux éditions Albin Michel et intitulé « Peut-on s'aimer malgré tout ce qui nous sépare ?» Rose est sage femme sur l'île de Groix. Dans le tumulte d'une guerre qui dure depuis trop longtemps, elle se donne corps et âme à ses patientes. Sa vie bascule au mois de septembre 1944, lorsque son domicile est réquisitionné pour héberger 2 officiers ennemis. Aussi révoltée qu'impuissante, Rose voit alors ses certitudes vaciller dans cette maison où chaque regard semble une menace, chaque silence un danger, et où les destins pourtant vont se nouer à jamais, car l'un d'entre eux est un malgré nous. Voici un roman mettant en scène la complexité de la Seconde Guerre mondiale. À la fin, vous y trouverez des recettes bretonnes, mais aussi alsaciennes, et cela donne un goût particulier à ce livre. Peut-on s'aimer malgré tout ce qui nous sépare? C'est signé Sophie Talmen et c'est publié aux éditions Albin Michel. Ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Thomas qui l'a réalisée. C'est en chanson que nous allons nous séparer, toujours avec le groupe breton Triane, qui en 2018 chantait « Le loup, le renard et la belette ».
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 10 ans, je m'en irai, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter.
C'est dans 9 ans, je m'en irai, la jument de Michaud a passé dans le pré. La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
La jument de Michaud et son petit poulain a passé dans le pré et mangé tout le foin.
L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en rebondira.
L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra, la jument de Michaud, elle s'en repentira. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard.
Thank you.